de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 11 février 1993.
Petite question, pas directement sur le cours actuel, mais plus général. À quel moment de la philosophie doit se faire l'étude de la distinction entre l'homme et la femme? Au niveau de la personne, quel est l'apport de cette distinction? Est-elle essentielle? Il y a quelques années, c'est pas vieux, il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait à Rimont un cours pendant toute l'année sur la distinction de l'homme et de la femme, parce que justement ça se situe aux différents niveaux philosophiques. Mais souvent on n'a pas le temps de le faire, étant donné que c'est l'étude, c'est au niveau du pos, du comment, et non pas des principes propres. En philosophie, on étudie les principes propres. En premier lieu, et puis la manière dont ces principes se trouvent réalisés. Alors vous voyez, on peut situer ce problème au niveau du facere, au niveau de la vie. Philosophie féministe et une philosophie de l'homme. anecdote. À Fribourg, je faisais ça, parce que ça m'amusait de voir ça, parce qu'elles étaient toutes prises par Platon. C'est vrai, c'est descriptif, c'est d'une certaine manière, la femme a un sens plus aiguisé du pose. Point de vue de l'intelligence, pas toujours. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus philosophes que des hommes qui sont beaucoup moins philosophes. C'est sûr. De sorte que, vous voyez, c'est très difficile. Mais ordinairement, la philosophie de Platon est du néoplatonisme, est plus féminine que la philosophie d'Aristote, qui est plus masculine. dire, qui nous fait comprendre notre autonomie radicale. Notre âme spirituelle est source de notre être. Selon la forme, selon la détermination. profondément. Et le corps amène cette complexité et cette complexité lorsqu'elle n'est pas abîmée. Sera peut-être abîmé, puisque le corps est radicalement potentiel. Il est en puissance. Donc il est source de fragilité. Il est source de vulnérabilité. Et tous les handicaps fondamentaux qui s'imposent à moi viennent limiter jusqu'à un point tel que certains philosophes comme Platon considèrent le corps comme tombeau de l'âme. Et ça, c'est significatif. Nous dirions que le corps handicapé est tombeau de l'âme, mais que le corps par lui-même n'est pas tombeau de l'âme. Parce qu'il est naturel. L'âme est naturellement unie au corps. Mais on comprend comment le corps peut devenir tombeau de l'âme dès qu'il y a un handicap radical, substantiel. Le corps vient limiter l'activité de la personne humaine. Il vient limiter le développement de l'intelligence. Il vient limiter le développement de la volonté. Mais le corps est aussi ce qui permet à l'âme de s'étendre, d'avoir son développement propre, son extension propre. L'aspect quantité du corps qui individualise, qui donne à l'homme sa physionomie et la physionomie de sa personne. Alors vous voyez, là le problème qui, je crois, doit être bien vu, la différence entre la physionomie de l'individu et la structure de la personne. Mon corps me donne une physionomie individuelle qui permet de caricaturer chaque individu. Nous avons chacun d'entre nous une démarche particulière, analogue à tel ou tel animal. Il y a des démarches d'hippopotame et il y a des démarches de chèvre. Notre corps nous apparente avec l'animal. Et nous avons une physionomie de roi des animaux. Et ça, c'est la physionomie. Vous voyez, c'est pas personnel, c'est individuel. C'est là où ce que Maritain dit entre individu et personne est juste. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de les opposer. C'est que l'individu est assumé par la personne. Et que l'individu donne à la personne sa physionomie. Vous voyez, c'est là où il faudrait faire en nota bene la critique de Maritain sur la distinction individu et personne. Pour montrer que l'individu est assumé par la personne. physionomie est très très importante puisque c'est le sujet de toutes les caricatures. Et c'est le sujet aussi de toute l'originalité. Notre originalité, elle se manifeste premièrement à travers notre corps. Notre regard, ça fait partie de notre personne quand même, notre regard. La manière dont nous regardons les choses, la manière dont nous les touchons. Des mains qui sont des cités noires, il y a des mains qui lancent la balle. Et ça dépend de chacun, c'est très curieux. C'est là où on voit très bien l'analogie avec l'animal. La patte de l'ours, parce qu'à Fribourg, on était proche des ours de Berne. Et quand vous donnez la main à un ours, c'est assez particulier. Et vous voyez qu'il y a des hommes qui ont des pattes d'ours, des femmes moins. Mais c'est tout ça, et c'est tout un domaine très intéressant, parce que c'est le domaine de la physionomie, de l'expression, de la... Et pour beaucoup, c'est presque la personne humaine, alors que non, c'est la physionomie du corps qui est assumée et qui demande d'être assumée, mais qui joue un rôle capital en psychologie. La démarche d'un individu, c'est énorme. Il y a des antilopes, il y a des chèvres, vous savez, du reste, l'écriture parle bien de ces choses-là. Dieu nous donne cette agilité, Dieu nous donne cette rigueur dans la démarche, au contraire ce flou. Il y a des pas doigts, et ainsi de suite, hein. Je ne développe pas, mais ça c'est... Alors, ça peut être le lieu de l'art.
Oh.
On voit tout de suite, et ça faisait partie de sa personne, la gondole. Ça va. C'est difficile à exprimer en anglais, je ne sais pas comment c'est que je... Bon, alors là, c'est tout un chantier. Il ne faut pas développer philosophiquement, il faut le situer. Et montrer que ça joue un rôle énorme. Parce que pour certains, c'est ça leur personne. Alors, c'est une réduction de la personne au corps et à la physionomie. Et vous voyez, c'est l'intelligence qui situe cela. Et c'est l'art, et donc c'est encore l'intelligence, qui permet, vous voyez, d'effacer, par exemple, dans la physionomie humaine, d'effacer tout ce que l'âge implique, la physionomie d'un enfant. Physionomie d'un vieillard. C'est un autre monde. Et on voit bien combien ça implique ça. Et combien au plan religieux ça joue. C'est l'âme. L'âme et le corps. Hein. Notre substance et notre âme et notre corps. Et notre âme est bien source de la structure de notre personne. Structure de notre vie végétative. Modalités diverses, mais je vois que ça fait partie essentielle de ma personne humaine. Je ne peux pas oublier mon corps. Je n'ai pas le droit d'oublier mon corps. Je peux m'en servir d'une façon très radicale en holocauste, la 16. Il y a une limite. Parce que ma vie végétative ne m'appartient pas. C'est un avoir qui n'est pas un avoir acquis. C'est un avoir qui m'est donné. J'ai tel corps. Je peux envier le corps d'un autre. Lui, il a une carcasse au moins. J'ai une certaine noblesse, une certaine. Moi, je suis chétif, maladif. Vous voyez, et ça, ça fait partie de la personne et de la structure de la personne. Et c'est bien la connaissance. C'est l'intelligence qui me donne cette connaissance. Parce que mon intelligence de l'intérieur.
C'est comme inscrire dans le monde d'aujourd'hui est quelque chose de différent, de
spécial grâce aux découvertes scientifiques et techniques. Et ce 20e siècle est un siècle de vitesse qui s'inscrit dans ma personne. J'utilise des moyens de déplacement ignorés au début du siècle. C'est pas vieux. Et ces moyens de déplacement ont une répercussion sur ma sensibilité, sur mon imagination, sur mon équilibre humain. et les guide. La personne au plan social, au plan politique, au plan familial, on la téléguide de manière telle que beaucoup ne se déterminent plus et ne dominent plus ce milieu sensible, social, politique dans lequel ils se trouvent, qui est un milieu artificiel. Et qui fait que le milieu naturel est quelquefois complètement effacé. Parce que les sens, c'est d'abord, et les sensations, c'est d'abord nous mettre en connaturalité avec le monde physique. Et pas en connaturalité avec le monde artificiel. Risque d'être entraîné, et entraîné d'une manière telle qu'on devient un robot, manœuvré. Et ceci joue énormément sur le psychisme. Le psychisme, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, il faut le situer, ça fait partie de ma personne et de mon individu. Je dois essayer de comprendre, au point de vue de mon intelligence, ce que représente ce psychisme. C'est mon milieu intérieur. C'est le vécu. Le vécu est à ce niveau de la mémoire et des souvenirs. Et mon psychisme, c'est tout ce milieu de ce que j'ai vécu, du vécu, tant du côté affectif que du côté intellectuel, et je le porte en moi, et ce vécu, il est fondamentalement de l'ordre de l'intentionnalité sensible, imaginative de tous les souvenirs. Et c'est comme une cuirasse qui peut m'isoler complètement et me mettre dans l'angoisse. Je crois que la personne humaine aujourd'hui doit lutter contre l'angoisse. Et là, c'est ici où les données psychologiques d'un Charles Audier doivent être situées et doivent être assumées. Parce que c'est au niveau du psychisme que parle le psychologue. Notre vécu au niveau du passé, du présent et du futur. On est un être temporel. Et notre personnalité humaine, elle s'inscrit dans un passé, dans le présent et dans le futur. Ça, c'est là où le psychisme, vous voyez, est mesuré par cela. Alors, vous savez bien ces trois dimensions que je crois importantes à saisir quand Charles Audier parle des sentiments du moi, et vous dire sentiments de ma personne. J'aimerais mieux dire sentiments de mon je suis. C'est psychique. Alors, il parle de ces trois sentiments. Sentiment d'autonomie. Vous voyez, on retrouve cette autonomie fondamentale. Alors, il le fait au niveau du sentiment du moi, donc au niveau du vécu. Parce que le sentiment, c'est le vécu. Au niveau du vécu. l'autonomie, la sécurité et la valorisation. Et je crois que je peux assumer ces trois au niveau de ce que je suis au niveau sensible du vécu. Et je vois bien où se situe la psychologie à ce point de vue-là. La psychologie ne dit pas ce qu'est la personne, mais elle dit le vécu de la personne. Le vécu passé, le vécu futur et le vécu actuel. Et je lutte contre les trois envahissements imaginatifs qui viennent arrêter mon développement. Et ça se situe au niveau psychique. Et le niveau psychique, c'est tout ce point de vue sensible, imaginatif. Et le milieu actuel de la communication inter-individuelle et personnelle que l'homme risque de se laisser emporter par cela. D'où va naître en lui le sentiment de l'aliénation hyper. Son sens de sa personne, de son individualité. C'est l'aliénation. L'aliénation joue pour l'instant présent, pour ce qui est actuel. Il risque d'être envahi par la culpabilité. Son passé est trop lourd. Il risque de perdre le sentiment de sécurité par l'angoisse. Et je crois que c'est très important là. Et là, la psychologie joue. Mais une psychologie assumée par la philosophie, hein. La psychologie n'est intéressante que quand elle est assumée par la philosophie. Autrement, elle alourdit tout. Et elle reste au niveau des communications et du vécu. Et elle peut être assumée et elle doit être assumée par la philosophie. Alors vous savez, en prenant ces six sentiments du moi, et je crois que c'est juste ça, vous avez là le terrain des luttes. Une personnalité humaine est toujours en devenir. Je dis personnalité, mais j'assume ma personnalité au niveau psychologique. Et toujours dans les luttes. Et ces luttes se résument de ces trois niveaux. Du passé, du présent et du futur. Il y a un minimum de sécurité. Il y a un minimum de valorisation. Valorisation, estime de soi-même, oui. C'est du reste intéressant parce que ça montre où se situe la valeur. La valeur ne se situe pas au niveau philosophique, elle se situe au niveau psychologique. C'est le vécu passé, la valeur. C'est le patrimoine. Nous avons tous un patrimoine. Nous avons tous un grenier en nous. Nous avons situé tous les vieux meubles. Parmi ces vieux meubles, il y en a qu'on aime beaucoup, qu'elle y revient tout le temps. Telle expérience dans la vie, telle rencontre dans la vie. J'ai rencontré Raïssa. Ça fait partie de mon patrimoine, vous voyez. Et ça fait partie de la valorisation, ou au contraire, de la culpabilité. Et c'est vrai, certaines rencontres sont des rencontres de culpabilité, lourdes à porter. C'est un imbécile, j'ai rencontré cet individu, et puis j'ai tout fait, je l'ai suivi. m'expliquait comme j'étais un saint, c'était un gourou, c'était un faux jeton. Il m'avait fait des tas de choses, des tas d'imbécilités. Le patrimoine que j'avais avec eux, je peux pas le nier, comme il faut que je le porte avec moi. Et quelquefois c'est très très lourd, je peux plus m'en séparer. Dès que je me rappelle ça, c'est un coup. Et je dégringole à toute vitesse. Culpabilité. Angoisse. Je crois que ce sont les trois. C'est pour ça que j'aime bien cette chose-là. Parce que ça structure. Vous voyez, et c'est le nombre 6, c'est curieux. 6, 6, 6. C'est un chiffre d'homme. Et c'est le chiffre du psychisme. Parce que c'est là où on peut être dans la gueule du démon. Notre homme aîné, puisque c'est de la théologie, ça. C'est pas de la philosophie. Mais le démon aime de s'installer dans notre vécu. Il a toujours un regard sur le vécu. Parce que le vécu, il est vécu dans l'imaginaire. Même mon vécu actuel. Vous voyez, quand je dis la communauté malienne, je suis aliéné, je ne suis plus moi-même dans la communauté. J'ai vécu ça. Réveille-toi et puis viens un peu dans ton intelligence. Tu vas dépasser la communauté. La communauté ne pense pas pour toi. Et quand je suis complètement pris par la communauté, aliéné, je crois qu'elle pense pour moi. Imaginativement. Et c'est très très important de comprendre tout ce point de vue psychique, avec tout ce que ça implique et les interprétations freudiennes de ce psychique. Là, c'est pas du tout freudien, ce que je vous dis. C'est pas du tout. Mais aujourd'hui, on interprète ce psychisme d'une manière freudienne, tout le temps, à trois dimensions : le moi, le surmoi, le S. Alors vous trouvez tout de suite l'interprétation freudienne qui est dialectique. C'est-à-dire que celle-là n'est pas dialectique. Elle est en dépendance du temps. Et puis alors, la structure profonde de ma personne, c'est mon intelligence qui se développe de deux manières ou de trois manières. Mon intelligence me structure profondément. Mais voyez, il y a des soubassements. Il y a mon corps, réalité végétative. Il y a mon psychisme. Et puis il y a la lumière. Et c'est mon intelligence qui apporte la lumière. Où je peux porter un jugement de vérité. Mais dans mon psychisme, je vois que, au sens strict, il n'y a pas de vérité, il y a des sincérités. Je suis en harmonie avec moi-même. Ce qui me permet de dépasser les luttes. Je suis en lutte constante avec moi-même. Ce qui me met enfoui. Alors, l'intelligence, elle assimile. Mais c'est plus le patrimoine. C'est plus le passé vécu. L'intelligence, elle est toujours actuelle. Il n'y a pas de mémoire de l'intelligence. C'est significatif. Tandis qu'il y a une mémoire du psychisme. Et la mémoire du psychisme, plus j'avance en âge, plus cette mémoire du psychisme joue un rôle important. Un gosse de 10 ans n'a pas beaucoup de patrimoine. C'est sa mère qui l'a pour lui. Ou son père. On fait pas ça chez nous. Hein ? Vous voyez, c'est le patrimoine maternel et paternel. est notre patrimoine. Et le vieillard dit tout le temps, dans le temps, comme c'était mieux. Et il vit du passé. Et ça, c'est la qualité propre du vieillard. Il vit du passé. C'est aussi son handicap. Il vit peu du présent. Parce que le patrimoine est trop lourd. Mais si son intelligence est aiguisée, donc si on a l'habitus métaphysique, à ce moment-là, on dépasse ce point de vue-là et on continue de vivre du présent. Parce que l'intelligence n'a pas d'âge. Et l'intelligence vit de la réalité de ce qui est. Une intelligence réaliste, c'est la seule. Parce que l'intelligence non réaliste, elle s'engouffre dans le psychisme ou dans l'affectif. Elle n'a pas sa tenue propre. Il n'y a que l'intelligence réaliste qui a sa tenue propre d'être une intelligence qui raisonne. Une intelligence qui assimile et une intelligence qui fait le discernement de ce qui est vrai et de ce qui est mauvais. Et c'est cela qui donne la structure propre de la personne humaine. Vous voyez, il y a deux soubassements et il y a une lumière.